Contre toute évidence, nombre d'esprits s'obstinent encore à associer la théorie einsteinienne de la relativité à la défense d'une forme de relativisme, au moins au double sens suivant. Non content de rejoindre la pléiade des auteurs pour qui la connaissance ne peut être que relative au sujet connaissant, Einstein aurait accompli la prouesse de ne même plus en accepter la connaissance scientifique. C'est du moins ainsi que André Metz croit pouvoir présenter ce qu'il tient pour un injuste chef d'accusation dans le fameux article de 1926 « Relativité et relativisme » où il reproche en particulier à Bergson, mais aussi à ceux qu'il range non sans raison sous la bannière des idéalistes, Léon Brunswick ou Édouard Leroy, de ne pas voir que la position d'Einstein est bel et bien à l'opposé d'une telle conception, et que loin d'être un idéaliste relativiste, Einstein est en fait un réaliste absolutiste. Malgré certains raccourcis, que les Bergsoniens notamment se sont empressés de noter, ce texte est intéressant à plus d'un titre. Il montre assurément que la relativité einsteinienne est étrangère au relativisme sous la forme qu'on lui impute, mais il permet aussi de réfléchir à ce que peut avoir d'incohérent le relativisme comme tel, et notamment si on l'entend comme un pur relativisme ou constructivisme des faits. Après avoir brièvement rappelé les points forts de la lecture de Metz, car ils mettent bien en évidence, selon moi, certaines raisons pour lesquelles on tend souvent encore à associer relativité et relativisme, et pas seulement Einstein, à ces deux concepts, je présenterai les principaux ressorts du relativisme, puis ses difficultés, après quoi je suggérerai quelques moyens de s'en sortir en m'appuyant pour ce faire, bien qu'avec quelques réserves aussi, sur la position que je crois être celle-là même que préconise Einstein. En effet, loin de se rendre coupable des accusations qui lui ont été adressées, notamment par certains philosophes et métaphysiciens, sur sa théorie de la relativité et les implications qu'il croit pouvoir y trouver, Einstein nous donne des moyens efficaces pour lutter contre maintes facettes sous lesquelles se présente encore aujourd'hui, sans vergogne, le relativisme, et il y parvient sans sombrer dans une forme de réalisme absolutiste dogmatique, que celui-ci prenne la forme d'un réalisme naïf, ou comme il le dit, simplet, ou celle d'un réalisme scientiste anti-métaphysique, qui se rendrait néanmoins coupable d'un réalisme métaphysique exacerbé. Mais commençons donc en relisant Metz, par essayer de comprendre pourquoi on a pu et on tend parfois encore à interpréter les réflexions d'Einstein sur la relativité et plus généralement la théorie de la relativité elle-même comme un relativisme. On le fait tout d'abord parce que, non sans raison, on associe Einstein au courant d'idées foncièrement idéalistes issues de la science moderne et dont Metz note du reste la prédominance dans la philosophie contemporaine, qui depuis Descartes et Kant s'est, je cite, détournée de l'étude du monde et des objets extérieurs, considérée désormais comme inaccessible ou même comme inexistant, et s'est orientée vers l'étude de l'esprit et de ses modifications, de la conscience ou de ses données immédiates. Fin de citation. On a parfois donné à juste titre à ce mouvement d'idées et au système qui en découle le nom de relativisme, observe Metz, parce que toute connaissance y est considérée comme relative au sujet connaissant. Je souligne. C'est là, du reste, plutôt qu'une doctrine déterminée, dit Metz, une tendance générale, comportant une infinité de nuances différentes, depuis le scepticisme littéraire jusqu'au solipsisme, en passant par les ondoyantes formes diverses du pragmatisme. Tous les systèmes peuvent se ranger sous le nom de relativisme du moment qu'ils s'opposent à quelques philosophies plus dogmatiques, du moment qu'ils contribuent à la destruction des illusions de l'absolu, si profondément chevillés, prend-il soin d'ajouter, dans l'esprit humain, par la routine du sens commun. Fin de citation. C'est donc très généralement à toutes les formes de la connaissance que s'applique l'action destructive, dit Metz, du relativisme, à ceci près que, du moins jusqu'à une date récente, il semblait que la science, cette reine de toutes les connaissances modernes, ait échappé à cette action. Toutefois, elle y échappait, si elle pouvait y échapper, c'était seulement grâce à un compromis, ou si vous voulez, grâce à une vaste concession de principes, faite par les théoriciens de la science aux relativistes et aux philosophes en général. Ce compromis, nous le connaissons, c'est celui déjà proposé par Osiander à Copernic et par Bellarmin à Galilée, raconté par Pierre Duhem dans Sozzeinta Phainomena. La science, disait-on, ne s'occupe que de faits positifs, de faits expérimentaux. Elle cherche des liens qu'elle appelle lois, théories, principes, mais elle ne prétend pas, par là, toucher le fond des choses. C'est ce compromis que l'on retrouve dans les différentes versions, précisément du pragmatisme, du positivisme, mais aussi du conventionnalisme. Si, je cite, « le langage précis, brutal, parfois des mathématiques qu'elle est contrainte d'employer peut faire illusion par ce dogmatisme apparent », on sauve la mise, car il suffit alors de dire qu'il n'y a en réalité dans les grands principes de la physique que des conventions plus ou moins commodes. Ce dernier terme évoque bien sûr Poincaré. Et ce que Poincaré disait ainsi des grands principes, le roi a été jusqu'à l'appliquer aux faits scientifiques lui-même en l'opposant aux faits bruts. Je cite, « Ainsi, derrière les affirmations des philosophes scientifiques, les savants pouvaient poursuivre en paix leur systématisation du monde toujours plus mathématique et plus dogmatique. On raconte dans les romans d'aventure, poursuit Metz, que dans la brousse américaine, les hommes qui vivent là-bas, chasseurs ou trappeurs, blancs et indigènes, lorsqu'ils veulent se défendre contre les incendies de forêt, sacrifient autour de leur campement une bande de terrain à laquelle ils mettent le feu, mais un feu prudemment surveillé, de manière que l'incendie venant ensuite rencontrer là une zone déjà détruite, où il ne peut plus mordre, c'est ce que l'on appelle faire la part du feu. Il semble que par leurs affirmations de principe, Poincaré et le roi aient fait la part du feu autour de la science, de manière à permettre à la mathématique de continuer à se développer malgré les progrès partout ailleurs irrésistibles du relativisme philosophique. Fin de citation. Or, où est particulièrement visible l'absolu de la science physico-mathématique qui caractérise celle-ci depuis qu'elle existe? Eh bien, dans les principes du système de Newton, à la base de la mécanique rationnelle, qui elle-même a servi pendant longtemps de modèle étroitement suivi pour toutes les branches de la physique moderne, et qui part, comme on sait, des notions d'espace euclidien, de temps universel, considérées comme données d'une façon absolue par la nature même de la réalité extérieure. L'une et l'autre y sont considérées comme logiquement antérieures à ce qu'ils contiennent. Les objets se placent dans l'espace, les événements s'inscrivent dans le temps en occupant une partie de celui-ci ou de celui-là. Tout en ayant mis en évidence de façon péremptoire les difficultés philosophiques de cette théorie et étant conduit, mais pour préserver l'apodicticité des principes de la géométrie euclidienne de la mécanique newtonienne à la notion des formes a priori de la sensibilité, Kant, au fond, a continué à préserver la part du feu en faveur des principes de la science physico-mathématique. D'où le sens révolutionnaire et apparemment dévastateur, en effet, que pouvait avoir d'emblée pour ses contemporains la théorie de la relativité d'Einstein. Je cite Metz, « Or, voici qu'une théorie nouvelle a surgi depuis quelques années, parlant de résultats expérimentaux qu'elle prétend interpréter en suivant les méthodes classiques de la science. Et cette théorie, en deux étapes rapidement franchies, a successivement affirmé l'abandon nécessaire de la notion de temps universel, puis l'abandon de celle d'espace euclidien. Ce système nouveau a justement pris le nom de théorie de la relativité. Il semble donc, malgré les efforts des philosophes de la science, depuis Poincaré et le roi, en passant par Auguste Comte, malgré la part du feu qu'ils avaient faite largement pour séparer du relativisme envahissant, il semble que l'incendie ait fini par gagner le domaine qu'on avait réussi à protéger jusque-là, celui des principes intrinsèques de la science physico-mathématique. Et c'est bien ainsi que l'ont interprété la plupart des philosophes contemporains qui ont salué, dans l'avènement des théories d'Einstein, l'embrasement général de la science par la tendance philosophique relativiste. Ce qu'ils ont vu, surtout dans le système nouveau, c'est que l'espace et le temps y sont considérés non plus comme des données absolues, a priori, données par la nature de la réalité extérieure, d'après Newton, ou par celle de l'esprit lui-même, d'après Kant, mais comme dépendant de la mesure faite par l'homme. Et c'est bien ainsi, du reste, que Léon Braunschweig interprète la révolution einsteinienne dans l'expérience humaine et la causalité physique. Page 555. Ce à quoi les faits ont conduit M. Einstein, dit Brunswick, ce qui demeurera dans la pensée humaine, c'est une conception générale de la mesure. Tout le monde sans doute reconnaissait que la mesure est un moyen pour mettre en évidence le cours intrinsèque des choses. Néanmoins, la détermination des moyens était érigée en moyens séparés qui se suffisait à lui-même, préalablement à son application, qui devenait une sorte de fin en soi, de sorte que, pour étayer la validité du procédé de mesure, il fallait se tourner vers un monde de concepts ou de préconcepts, comme celui que Newton définit au début des principes, ne lui laissant d'autre alternative que de résider en Dieu ou de s'effondrer dans le vide. De cette alternative à laquelle sont liées les oscillations de la philosophie scientifique à la fin du XIXe siècle, M. Einstein nous a définitivement délivrés, dit Brunswick, parce qu'il a su orienter la définition de la mesure vers la réalité à mesurer et définir cette réalité en fonction même de l'instrument de mesure. Fin de citation. Dans la même veine, Brunswick écrit encore que, dans la théorie de la relativité, le temps naît du moment où il est mesuré. On ne peut pas plus nominaliste comme affirmation, n'est-ce pas ? Et l'espace n'est pas antérieur à la mesure, il naît de la mesure. Fin de citation. Et Metz, dont la cible est au moins autant que Brunswick Bergson, de s'empresser de noter que ce dernier, je cite, dans le livre qu'il a consacré spécialement à l'étude de la théorie d'Einstein, s'exprime d'une façon analogue. Je cite, le principe, enfin, Bergson, n'est-ce pas, le principe même de la théorie de la relativité est de ne jamais rien supposer au-delà de ce qui est actuellement constaté et de la mesure effectivement prise. Comme on sait, toute l'argumentation de Metz dans son article va alors consister à montrer, premièrement, que le livre entier de Bergson, Durée et simultanéité, est consacré à une thèse qui est à l'opposé des physiciens relativistes et qui n'est autre que le rétablissement de la notion de temps absolu. Deuxièmement, que ce faisant, Bergson fait constamment appel à des notions qui sont celles de l'ancienne mécanique et qui sont formellement répudiées par la nouvelle, comme c'est le cas de la vision instantanée à distance, alors que d'après la théorie d'Einstein, non seulement toute vision de ce genre est impossible, mais encore cette impossibilité tient à la nature même des choses, de sorte qu'en introduisant même par la pensée dans un raisonnement, on affecte ce raisonnement d'un vice fondamental. Il s'agit en troisième lieu et plus généralement de montrer qu'une telle lecture constitue une interprétation particulière de la théorie de la relativité qui en particulier ne tient aucun compte, premièrement, des faits physiques sur lesquels Lorentz, Einstein et leurs disciples ont basé leur système, alors que ce sont des expériences qui ont conduit les théoriciens à le construire pour sauver les phénomènes, ce sont des expériences qui, après coup, l'ont vérifié, et que ce monument mathématique aux proportions colossales n'aurait aucune raison d'être s'il ne rejoignait pas de tous côtés les faits, faits observés et non imaginés, s'il ne les comprenait pas dans sa construction même, étroitement cimentée, dit Metz, aux autres pierres de l'édifice. Ne tient pas davantage compte, deuxièmement, du fait qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que pense Bergson, de distinguer le temps ralenti et réel, bref, le temps des philosophes, et le temps, lui, fictif des physiciens, qui n'est pas le temps réellement écoulé, ni davantage de distinguer deux espèces de simultanéité, celle qui serait intérieure aux événements et qui ne se règle pas sur des réglages d'horloge, pour parler comme Bergson, mais exprime quelque chose du système lui-même, laquelle serait, selon Bergson, absolue, et celle changeante, relative, fictive, du physicien, qui, elle, serait, je cite Bergson, plaquée sur les événements par un observateur extérieur. Par où l'on voit non seulement éclater l'opposition entre le point de vue de Bergson et celui d'Einstein, pour qui, dit Metz, il n'y a pas de simultanéité pour ce qui se passe en des endroits distincts les uns les autres dans l'espace, si l'on ne précise pas le système de référence choisi. Là où pour Bergson, au contraire, il existe une simultanéité intérieure aux événements et absolue. Mais l'on voit aussi que M. Bergson est retombé dans l'absolu beaucoup plus profondément encore. La conclusion s'impose, je cite, « les deux relativités, celle des physiciens et celle de M. Bergson et Brunswick, conduisent donc à des divergences irréductibles lorsqu'il s'agit de l'application à des phénomènes physiques. » D'où une question. Est-il bien sûr que les points de départ soient les mêmes ? Quelles sont les conceptions relativistes des deux philosophes précités? Comment ils voient dans la théorie nouvelle le réel dépendant de la mesure et même en quelque sorte créé par la mesure? Bergson va même plus loin puisqu'il dit, je cite, « C'est bien dans la direction idéaliste, croyons-nous, qu'il faudrait orienter cette physique si l'on voulait l'ériger en philosophie. » Donc, la théorie d'Einstein, bien loin d'affirmer la relativité de la connaissance scientifique à l'esprit du sujet connaissant, pousse au contraire l'affirmation de l'absolu de la nature, bien au-delà de ce qu'avaient posé les théories antérieures, conclut Metz, dont les dernières phrases du texte sont celles-ci, « Relativité, relativisme, les mots ont une valeur magique ». Le nom de la théorie nouvelle, qui est justifié par des raisons historiques et scientifiques respectables, a pu faire illusion. Il ne doit pas nous faire oublier la signification profonde de la science, qui, comme telle, est une recherche de l'absolu. Nous avons vu d'ailleurs que la théorie d'Einstein, bien loin de marquer à ce point de vue sur les systèmes antérieurs, affirme l'absolu des lois de la nature à un degré qui n'avait pas été atteint jusqu'alors. Fin de citation. Alors, plutôt que de nous demander si Metz a raison dans sa critique des thèses de Bergson, que l'on a depuis, et lui le premier, et du reste par plusieurs échanges, tenté de sauver, en montrant que, à la différence d'Einstein et de son supposé mépris pour la métaphysique, il y aurait un temps pour philosophes et un temps pour les savants, Bergson se placerait, lui, sur le point, dès lors supposément différent, voire antithétique, je n'ose pas dire supérieur, de la métaphysique. Et avant encore de se demander si Metz a raison ou non dans son analyse appliquée cette fois à Einstein, sa lecture a au moins encore un mérite, et peut-être pour aujourd'hui le premier, celui de montrer pourquoi et comment le relativisme a été et est souvent associé, en effet, à diverses formes d'idéalisme, de conventionnalisme, de pragmatisme, de positivisme et aussi de scepticisme. Mais pour mieux comprendre en quoi cette lecture se justifie, il nous convient donc de préciser ce que ce concept même de relativisme recouvre. Eh bien, le relativisme est un terme qui recouvre évidemment toute une famille de doctrines selon que vous mettez l'accent sur tel ou tel domaine auquel il s'applique. Relativisme, dit-on, ontologique, linguistique, moral, esthétique, culturel, social, et selon aussi le degré que vous êtes prêt à lui donner. S'agit-il d'un relativisme qui va concerner les faits, un relativisme qui va porter sur la justification de vos croyances, ou bien encore sur les raisons épistémiques, morales, esthétiques, que vous pouvez invoquer? Doit-on estimer que la seule introduction d'un paramètre de relativité, quel qu'il soit, engage ou non à une position relativiste? Je viens d'essayer de montrer déjà un peu que, évidemment, ça n'est pas le cas pour Einstein, je vais y revenir. Comme nous allons le voir, en tout cas, en fonction de la manière dont on envisage ces différents aspects, le relativisme peut être entendu soit comme une position tout simplement incohérente, soit comme une position absolument inévitable, mais qui n'est pas cependant forcément hostile à l'idée même de connaissance, ni même peut-être à celle de valeur que peut avoir la connaissance. Si cette dernière position était juste, prions, cela voudrait dire que, premièrement, selon une certaine acception du concept, on pourrait être parfaitement prêt à admettre, par exemple, que différentes cultures et communautés épousent des valeurs esthétiques, morales ou épistémiques différentes, que ces valeurs n'ont de sens que relativement à telle culture ou communauté, sans pour cela tout accorder au contextualisme épistémique intégral, du style par exemple que celui qu'a défendu paradigmatiquement quelqu'un comme Richard Rorty, et encore moins des formes radicales de constructivisme social si fameuses dans notre beau pays. Cela voudrait dire ensuite que l'on peut partager les thèses par exemple quinienne, relativité de l'ontologie, inscrutabilité de la référence, indétermination de la traduction, celle encore de ce qu'on appelle la relativité linguistique de quelqu'un comme Worf, ou encore l'argument de la relativité conceptuelle chez Putnam, c'est-à-dire il ne peut y avoir d'engagement métaphysique qui ne soit relatif au langage, où la signification et la référence sont relatifs à certains schèmes conceptuels ou linguistiques, ou encore la thèse de ce qu'on appelle l'incommensurabilité des paradigmes de Kuhn, sans être, n'est-ce pas, obligé d'admettre que la seule option possible soit alors de défendre une forme d'irréalisme pluraliste dans le style que propose par exemple un auteur comme Nelson Goodman. Mais toute la difficulté, vous vous en rendez bien compte, comme nous allons le voir, est de se frayer un chemin entre ces précipices, et donc, et Dieu sait si la voie est étroite, et donc de ne pas s'en jeter forcément directement le bébé avec l'eau du bain. Alors commençons déjà par voir, si vous voulez bien, pourquoi relativité, relativisme et scepticisme, bien qu'il faille les distinguer, vont souvent de pair. Vous vous souvenez des 10 modes ou tropes que développe Sextus Empiricus dans les esquisses pyrrhoniennes et le sens que prend le mode du relatif. Sextus, je cite le passage, « Le premier mode, nous dit Sextus, se fait d'après la variété des animaux, deuxièmement d'après la différence entre les humains, le troisième d'après les différentes constitutions des organes des sens, le quatrième d'après les circonstances extérieures, le cinquième d'après les positions, les distances et les lieux, le sixième d'après les mélanges, le septième d'après la quantité et la constitution des objets, le huitième d'après le relatif, le neuvième d'après le caractère continu ou rare des rencontres, le dixième d'après les modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances aux mythes et les suppositions dogmatiques. » Fin de citation. Livre 1, 36-37. Sextus Empiricus classe ces 10 modes de manière hiérarchique en les subordonnant à 3 autres modes, eux-mêmes subordonnés au relatif. Le relatif d'après ce qui juge, d'après ce qui est jugé, d'après les deux précédents. Ce qui donne, d'après ce qui juge, d'après la variété des animaux, d'après la différence entre les humains, d'après les différentes constitutions des organes des sens, d'après les circonstances extérieures. Ensuite, d'après ce qui est jugé, d'après la quantité et la constitution des objets, d'après les modes de vie, enfin, d'après les deux précédents, d'après les positions, les distances et les lieux, d'après les mélanges relatifs, mode 8, d'après le caractère continu ou rare des rencontres. Première remarque, en quoi l'argumentation générale repose-t-elle sur la relativité? Tout simplement parce que, vous voyez, il s'agit ici de procéder à un jeu de remplacement, au fond, des différentes variables. Par exemple, dans le premier mode, si vous remplacez les variables par deux espèces animales, l'huile d'olive est bonne pour les hommes, mais elle est mauvaise pour les abeilles. Mais dans le second, les variables seront différentes personnes. Le soleil est bon pour moi, mais insupportable pour mon voisin. Dans le troisième mode, remplaçons les mêmes variables par différents organes sensoriels. Une image peut présenter des reliefs à l'œil, mais pas au toucher, etc. Comme vous le constatez, cette argumentation générale repose sur le huitième mode, celui de la relativité, qui est, pour ainsi dire, présupposé par tous les autres, et qui est subordonné à 3 modes supplémentaires, donc, comme nous venons de voir, celui du sujet qui juge, celui de l'objet jugé et celui qui combine les deux précédents. Deuxième remarque, nous voyons donc qu'on ne saurait conclure trop rapidement que les 10 modes conduisent au relativisme. Le relativisme cognitif ou moral est en effet une autre forme de position dogmatique. Lorsque Sextus affirme, à l'occasion du huitième mode, que tout est relatif, il veut dire que tout est apparemment relatif. Sextus avertit, je cite, « qu'ici comme ailleurs, nous utilisons approximativement « est » à la place de « paraît », voulant signifier par là « toute chose paraît relative ». Troisième remarque, le relativisme lui-même n'est pas une sorte de scepticisme. Et le relativiste n'est pas, en cette affaire, l'allié du sceptique. Car là où le sceptique suspend son jugement, le relativiste lui prétend au savoir. La nature des choses qui est opaque au sceptique est la lucidité elle-même aux yeux du relativiste. Prenons un exemple tout simple. Supposez que votre manteau m'apparaisse blanc aujourd'hui, mais que demain j'ai un œil au beurre noir et que votre manteau m'apparaisse orange. Le sceptique, lui, va être conduit à suspendre son jugement sur la couleur du manteau. En d'autres termes, il va soutenir que le manteau est en lui-même rouge ou orange, mais qu'il ne peut pas dire de quelle couleur il est. Position pyrrhonienne par excellence. Son scepticisme, donc, consiste dans le fait qu'il y a un fait à connaître, mais qu'il n'est pas en position de connaître. Le relativiste, lui, ne suspend pas son jugement. Il soutient, en premier lieu, que votre manteau n'est pas lui-même blanc ou orange, mais qu'il est blanc pour des yeux normaux, orange pour des yeux au beurre noir. Et il soutient en second lieu qu'il peut dire tout ce qu'il est possible de dire sur les couleurs, que le manteau est orange relativement à ses yeux-ci, blanc relativement à cela, et qu'il n'y a rien d'autre à dire sur sa couleur. Il faut donc bien voir, une fois encore, que le relativiste n'est pas l'allié du sceptique. Le sceptique plus radical suspend son jugement, je répète, il y a un fait à connaître, mais il ne peut le connaître. Le relativiste soutient qu'il sait, mais relativement à X, à un individu, un standard, un critère, qu'il y a donc une vérité, mais pour X, qu'on peut affirmer des jugements relatifs, c'est-à-dire à l'intérieur d'un cadre, d'une culture, etc. Toutefois, sceptiques et relativistes ont en commun de rejeter l'idée d'une réalité objective, d'une vérité à connaître. Auront-ils l'un comme l'autre raison ou tort? Pour le mesurer et ne pas se tromper d'adversaire, il faut bien comprendre ce qu'il s'agit ici de nier et de ne pas nier quand on s'oppose aux relativistes selon le modèle classique de la connaissance. On ne nie pas que, et là je reprends les distinctions élaborées par Paul Bogossian dans son superbe livre « La peur du savoir », il ne s'agit pas de nier ici que la quête de la connaissance puisse manifester une forte dimension sociale, et cela de plusieurs manières. On ne saurait nier, par exemple, que la connaissance est souvent produite collectivement par des membres d'un même groupe social, que certains faits contingents relatifs à ce groupe peuvent expliquer pourquoi ces membres se sont tournés vers certains problèmes, de préférence à d'autres. De même, le modèle classique ne nie pas que les membres d'un groupe de chercheurs puissent avoir certaines valeurs politiques ou sociales, ni que ces valeurs puissent avoir une influence sur la façon dont ils conduisent leurs travaux, sur les observations qu'ils font, sur la façon dont ils interprètent les données recueillies. En revanche, le modèle relativiste insiste bien, le modèle classique de la connaissance va insister sur l'indépendance de la connaissance à l'égard des circonstances sociales contingentes et affirmer les trois choses essentielles suivantes. Premièrement, de nombreux faits concernant le monde sont indépendants de nous et donc indépendants de nos valeurs et intérêts sociaux. Le fait, par exemple, que les dinosaures ont jadis peuplé la Terre n'est pas dépendant de nous. C'est un fait naturel qui n'a pas eu besoin de nous, pour autant qu'on sache, pour exister. Deuxièmement, ce qui est visé est moins la vérité que les justifications qui sont les nôtres à croire que quelque chose est vrai. Bref, que nous ayons découvert une preuve de l'existence des dinosaures n'est peut-être pas indépendant de notre environnement social, mais qu'il s'agisse d'une preuve en faveur de cette hypothèse l'est. Troisièmement, la conception classique de la connaissance suppose aussi que l'on a une certaine idée du rôle que jouent les raisons épistémiques qui sont les nôtres pour expliquer pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Ainsi, être confronté à des preuves empiriques qui justifient la croyance qu'il y a eu des dinosaures peut, dans certains cas, expliquer à soi seul pourquoi nous croyons qu'il y en a eu. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'invoquer d'autres facteurs et en particulier d'invoquer nos valeurs et intérêts sociaux contingents. Et évidemment, cela fait une différence colossale. Bien. On pourrait donc caractériser le modèle classique selon ce triple objectivisme, celui des faits d'abord, de la justification ensuite, de l'explication rationnelle ensuite. Or, le relativiste est quelqu'un qui va s'en prendre à l'une ou l'autre de ces caractérisations, parfois même aux trois. Je m'attacherai, faute de temps, à la première, puisque c'est celle qui est justement en jeu dans les critiques que font les idéalistes relativistes philosophes de l'époque à Einstein. Pourquoi l'idée même d'un relativisme intégral ou constructivisme des faits est-elle incohérente? Et donc, pourquoi ne peut-on dire en effet que tout n'est pas construit? C'est la thèse la plus radicale, la plus contre-intuitive et pourtant, à bien des égards, la plus influente toujours aujourd'hui. Mais elle est incohérente, tout simplement parce que le monde ne nous a pas attendus pour exister et que de nombreux faits ont existé avant nous. Mais dans certaines de ces versions, le relativiste dit plus subtilement que nous construisons un fait parce que nous acceptons une façon de parler ou de penser qui décrit ce fait. C'est la technique adoptée notamment par Nelson Goodman dans son livre « Manière de faire des mondes ». Il n'y a pas de façon dont est le monde qui soit indépendante d'une description, pas de façon dont il est hors de toute description. Sans doute, certains faits, direz-vous, dépendent-ils de leur description ou de l'esprit. Il ne pourrait y avoir d'argent, ni de baignoire, de prêtre, Foucault ajoutait, d'homosexuels, si personne n'était ou n'avait été disposé à un moment à les décrire de la sorte. Mais d'une part, cela n'est pas nécessairement vrai de tous les faits, montagnes, dinosaures, électrons. D'autre part, la relativité sociale des descriptions est une chose, le constructivisme des faits en est une autre. Même dans la version subtile que propose par exemple quelqu'un comme Putnam de la relativité de l'analyse conceptuelle qui lui fait dire qu'il n'y a pas de façon dont sont les choses en elles-mêmes indépendamment du choix d'un schème conceptuel et qu'il peut y avoir plusieurs descriptions également vraies du monde ou d'une certaine de ses parties, dès lors qu'elles sont cohérentes, même si de fait elles impliquent des notions d'objets distincts, aucun objectiviste, selon Putnam, n'y trouvera à redire. Bref, vous pouvez parler, par exemple, indifféremment, soit de 8 personnes ou de 4 couples. Bon. Mais pour cela, vous êtes quand même bien obligé d'admettre qu'il existe des faits de base, une sorte de base, de pâte primitive, si vous voulez, du monde, pour que vous puissiez, tout simplement, opérer sur elle. Donc aussi bien pour des raisons touchant à la causalité, il ne peut pas y avoir de causalité à rebours, que pour des raisons de compétence conceptuelle, fait partie du concept de dinosaure, qu'il n'a pas été construit par nous, ou de violation purement et simplement du principe de non-contradiction, puisque à un moment donné vous êtes amené à affirmer que nécessairement ce n'est pas à la fois le cas que P et que non P, ou encore dès lors que les constructions sont tenues pour contingentes, comment comprendre qu'on puisse construire simultanément des faits logiquement ou métaphysiquement incompatibles? Eh bien, le relativisme des faits est tout simplement incohérent, impossible à soutenir. Sans doute, la relativisation des faits à une théorie permet-elle d'éviter certains problèmes? Ainsi, on pourra dire qu'il n'y a pas de fait absolu de forme P et que si nos jugements factuels doivent avoir une chance d'être vrais, il ne faut pas interpréter les énoncés de la forme P comme exprimant l'affirmation P, mais comme affirmant plutôt ceci, selon une théorie T, que nous acceptons P. En nous appuyant donc sur, pourrait-on dire, le pluralisme des faits suivants. Il y a de nombreuses théories alternatives pour décrire le monde, mais il n'y a pas de faits en vertu desquels l'une serait plus fidèle qu'une autre à la façon dont les choses sont en elles-mêmes. Mais si une telle formulation peut sembler cohérente appliquée à tel ou tel relativisme local, notamment dans le domaine moral, esthétique ou culturel, elle devient absurde dès que vous la généralisez. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tout relativiste a besoin de présupposer, une fois encore, l'existence d'au moins quelques vérités absolues. Or, il a besoin en même temps d'affirmer qu'il n'y en a aucune. Il se trouve donc face à un dilemme insurmontable, ou bien il cesse d'être relativiste, ou bien il perd toute intelligibilité. Nous n'avons donc d'autre choix que de reconnaître qu'il doit exister des faits objectifs indépendants de l'esprit. Sans doute cela ne nous dit-il rien sur ce qu'ils sont, ni quels sont parmi les faits qui existent, ceux qui sont indépendants de l'esprit et ceux qui ne le sont pas, mais l'essentiel, vous voyez, est acquis. Le relativisme ne nous a pas non plus donné de sérieuses raisons de penser que nous avions tort de considérer qu'il y a autour de nous certains faits, des dinosaures, des girafes, des montagnes, le monde est le monde, tout simplement, finit du reste par admettre Putnam en évoluant dans son réalisme. Dans une très large mesure, le monde extérieur est ce qu'il est, indépendamment de nous et de ce que nous en faisons. Sans doute, pour être complet, faudrait-il que je m'attarde sur aussi d'autres aspects du relativisme, cette fois qui ont trait au relativisme épistémique, et donc à la question des critères dont nous disposons ou non pour justifier nos croyances. Car sans doute est-ce là que l'argument relativiste peut être revêt quelques forces, notamment sous la forme de l'argument dit renforcé en faveur du pluralisme, ou encore sous la forme de l'argument selon lequel les systèmes épistémiques ne seraient ni vrais ni faux, mais seraient des impératifs. Mais on pourrait montrer, donc il faut que vous me croyiez sur parole, que même en ce cas, le relativisme ne résiste pas en fait à l'examen, notamment parce qu'il repose sur des ambiguïtés dont on peut mesurer certains effets, en particulier dans la question du désaccord. Alors avant de voir pour finir, si on peut proposer quelques pistes pour éviter les impasses du relativisme. J'ai combien de temps, Antoine ?
On passera à l'autre communication dans 10 minutes.
Très bien, merci. Très bien, Voilà. Notamment sous la forme d'un réalisme qui pourrait trouver sa place à mi-chemin entre un réalisme métaphysique prenant une indépendance totale de la réalité par rapport à l'esprit et un relativisme culturaliste ou historiciste, dans lequel les notions classiques de vérité, de justification ou de connaissance auraient perdu toute raison d'être sans nous offrir vraiment de solution de rechange satisfaisante. Donc quelques mots rapides pour mesurer à quel point, en effet, la théorie de la relativité n'est pas du tout coupable, évidemment, des vices relativistes qu'on lui prête et que je viens rapidement d'évoquer. Pour mesurer à quel point il est au moins un sens du relativisme, dont on peut être sûr qu'Einstein ne l'épouserait pas, c'est celui qui consisterait à croire que tout dans la réalité est le fruit d'une construction. Qu'il suffise de citer ici ce beau passage où on voit Einstein ironiser sur la manière dont on peut raconter les faits de plusieurs manières et comment la presse, par le biais de ce que nous appelons aujourd'hui le storytelling, peut être amenée à faire dire à une personne qu'elle interroge l'exact opposé de ce qu'elle a dit. Si publiquement on vous demande une justification, dit Einstein, pour tout ce que vous avez déclaré, même en plaisantant, dans un moment d'humeur capricieuse ou de dépit momentané, c'est en général désagréable, mais après tout normal. Mais si publiquement on vous demande une justification pour ce que d'autres ont déclaré en votre propre nom, sans que l'on puisse l'interdire, alors votre situation se découvre pitoyable. Qui serait tant à plaindre, interrogez-vous. En fait, tout homme dont la popularité suffit à justifier la visite des intervieweurs. Vous restez sceptique ? J'ai tellement d'expérience à ce sujet que je n'hésite pas à vous la livrer. Imaginez un matin, un reporter vous rend visite et vous prie aimablement de donner votre opinion sur votre ami N. Vous vous sentez d'abord comme irrité devant une telle prétention, mais vous réalisez vite qu'il n'existe aucune échappatoire, car si vous refusez une réponse, cela donnera ceci. J'ai interrogé l'homme qui passe pour le meilleur ami de N, mais il s'est prudemment récusé. De cette attitude, le lecteur tirera d'inévitables conclusions. Alors, puisqu'il n'existe aucune échappatoire, vous déclarez N a un caractère gai, franc, aimé de tous ses amis. Il sait voir le bon côté de chaque situation. Il peut prendre des responsabilités et arrive à les réaliser sans restriction de temps. Son métier le passionne, mais il aime sa famille et donne à sa femme tout ce qu'il a, etc., etc. Cela donnera, dit Einstein, N ne prend rien trop au sérieux. Il possède le rare talent de se faire aimer de tous et il s'y ingénie par un comportement exubérant et flatteur. Mais il est tellement esclave de son métier qu'il ne peut réfléchir à des sujets personnels ou s'intéresser à des questions étrangères à sa recherche. Il gâte sa femme outre mesure, esclave aboutique de ses désirs, etc. Un véritable professionnel du reportage, conclut Einstein, dirait même tout cela dans un style encore plus percutant, mais pour vous et votre amie N, c'était là suffisant. Car le lendemain, dans le journal, N lit cela et d'autres phrases du même genre, et sa colère contre vous, évidemment, éclate, illimitée malgré son caractère gai et franc. L'offense qu'on lui a faite vous bouleverse profondément car vous aimez réellement votre amie. Eh bien, mon ami, que faites-vous dans cette situation? Si vous découvrez une méthode, je vous en supplie, communiquez-la à moi pour que je puisse l'appliquer immédiatement. Bon. Mais il est évidemment encore plus facile, évidemment, s'agissant de la théorie de la relativité elle-même, et Metz n'a aucun mal naturellement à le montrer, pourquoi elle est tout le contraire du relativisme. Ce que Metz met en valeur dans son texte est bien connu des physiciens. Il s'agit dans le cas d'Einstein non pas du tout de relativisme, mais en toute rigueur de perspectivisme, comme Françoise Balibar n'a cessé de le souligner, notamment dans son livre de 1984, Galilée, Newton, lu par Einstein, espace et relativité. L'idée de relativité, écrit-elle en conclusion de son livre, nous n'avons cessé de le répéter au cours de ce livre, se résume en une recherche de points de vue équivalents. Et elle note au passage que, dans une conversation privée avec l'un de ses collègues, Einstein a proposé de remplacer d'ailleurs le terme de relativité par Standpunktslehre, théorie du point de vue. Idée du reste qui n'est pas propre à Einstein, que vous trouvez chez Galilée comme chez Newton, et qui repose sur le postulat selon lequel les lois de la physique, n'est-ce pas, sont en réalité invariantes pour un certain nombre d'opérations ou de transformation. Et l'invariance, évidemment, dont il s'agit, porte sur les relations entre grandeurs physiques, ce qu'on appelle donc les lois physiques, et non sur les valeurs de ces grandeurs elles-mêmes. Lors des transformations, les valeurs de grandeur physique peuvent très bien changer, il est même rare qu'elles restent invariantes, mais les relations entre ces grandeurs doivent rester invariantes. C'est du reste dans la découverte de cette invariance entre grandeurs relatives que réside la nouveauté de l'œuvre de Galilée, Newton, contrainte forte avec laquelle, naturellement, Einstein n'a aucunement l'intention de rompre. Le principe de relativité n'est qu'une exigence d'invariance parmi d'autres, l'une de ces super-lois auxquelles les lois de la physique sont soumises. Ainsi, l'idée de relativité débouche-t-elle finalement sur une recherche de grandeur invariante qui structure l'espace-temps? Si vous ajoutez à cela que l'idée de relativité se résume en une recherche de relations invariantes, vous voyez que le nom « relativité », comme dit Françoise Balibar, est bien malvenu, en fait. Le but de toute théorie de la relativité est, comme le faisait déjà remarquer Sommerfeld, la recherche de ce qui n'est pas relatif, de l'absolu, en quelque sorte. De même, ce que montre l'analyse de la notion de transformation de coordonnées et ce qu'elle implique, c'est ce que l'objet dont on prend les coordonnées préexiste au système d'axes qui permettent de le repérer. Donc, une fois ce repérage exécuté par rapport à l'un des systèmes donnés et traduit par les nombres qui sont les coordonnées, d'autres repérages s'en déduisent mathématiquement, pourvu qu'au milieu des modifications des systèmes, l'objet reste ce qu'il était. Autrement dit, bien entendu, même si pour la commodité du discours, on peut parler d'un observateur humain qui aurait par exemple commencé par se placer en faveur de tel objet et aurait ensuite changé d'orientation en même temps que les instruments de mesure, l'observateur n'est qu'une figure de rhétorique ou une figure de style, comme le dit forcément Metz, si vous voulez, mais il n'intervient évidemment pas du tout au sens où il serait le créateur libre de la mesure et de l'objet, ce qui est évidemment l'interprétation idéaliste qu'en donnent Brunswick et Bergson. D'où la conclusion décidément réaliste qu'il faut tirer de tout cela au sujet de la signification philosophique de la mesure dans l'esprit du physicien. Pour le savant, des choses d'ailleurs comme le courant, et Meyerson n'a cessé de le montrer d'ailleurs, existent par elles-mêmes en dehors de leur constatation ou de leur mesure par qui que ce soit. On peut dire d'ailleurs que la théorie d'Einstein, bien loin d'affirmer la relativité de la connaissance scientifique à l'esprit du sujet connaissant, pousse au contraire l'affirmation de l'absolu de la nature bien au-delà de ce qu'avaient posé les théories antérieures. Pour finir, quelques mots rapides. J'ai indiqué pour commencer la place énorme qu'occupe aujourd'hui encore le relativisme sous de nombreuses formes. J'ai indiqué au passage les risques d'idéalisme, de scepticisme qu'il induit, si on le conduit jusqu'à une forme exacerbée de constructivisme intégral des faits. Ses implications éthiques désastreuses, notamment par le cynisme qui va le plus souvent de pair avec le scepticisme, sont sûrement des aspects auxquels Einstein, notamment dans le contexte historique calamiteux qui était le sien, ne pouvait manquer d'être sensible. Je n'ai pas eu le temps de montrer aujourd'hui pourquoi et comment une approche réaliste, scientifique et métaphysique, c'est celle que je préconise moi-même, qui reste donc simultanément soucieuse de la science et farouchement opposée au positivisme scientiste, auquel certains métaphysiciens accusent parfois à tort Einstein de succomber, est en effet, comme semble l'indiquer le métaphysicien physicien Einstein, à de nombreuses reprises et sous diverses formes, l'un des moyens les plus sûrs de contourner, voire de vaincre le relativiste. Mais il me semble qu'on en distingue au moins chez Einstein déjà plusieurs signes. Par exemple, dans son souci de caractériser la théorie de la relativité comme une théorie d'abord des principes, plutôt que comme une théorie constructive. Dans son souhait de trouver les fondements de la théorie, dans sa recherche de la simplicité et de l'unité, couplée à un sens aigu de la modestie qui doit accompagner en permanence, en toutes circonstances, le scientifique, dont le sens de l'absolu, ou de ce qu'il appelle parfois la religiosité cosmique, a plus à voir, comme l'a montré d'ailleurs tout à l'heure en répondant à une question Serge Haroche, avec la capacité d'étonnement ou de sens du merveilleux, qu'à l'adhésion à proprement parler à telle ou telle religion, ou encore, comme le montre son analyse subtile de Bertrand Russell, à l'adhésion béate, aussi bien à un réalisme simplet ou naïf, qu'à une forme exacerbée de réalisme métaphysique qui ne laisserait aucune place au rôle, à la créativité de l'esprit dans la constitution même de la science. Même si, comme je le crois, on peut trouver d'autres arguments pour contrer des positions de ce genre, il est clair que pour Einstein, son kantisme était déjà un garde-fou, du moins à ses yeux, suffisant. Enfin, j'ai dit aussi que si le relativisme entendu comme un constructivisme de fait est tout bonnement incohérent et intenable, il est peut-être d'autres formes, moins extrêmes, notamment dans le domaine de l'éthique ou de l'esthétique, ou du moins à condition que nous ne sombrions pas dans un relativisme culturaliste ou historiciste échevelé, où les notions classiques de vérité, de justification ou de connaissance auraient perdu toute raison d'être, sans nous offrir vraiment de solutions de rechange satisfaisantes, peuvent constituer une version un peu plus acceptable. Il me semble que c'est un peu une suggestion de ce genre à laquelle nous convie, non sans ironie tout de même, Einstein, si attentif à la nécessité de poursuivre le progrès moral de l'existence sociale et individuelle, qu'il ne concevait pas en dehors de la défense ferme de certains idéaux, au premier rang desquels l'idéal capable de réunir tous les hommes, l'idéal républicain. Et c'est donc par ce texte que je souhaiterais conclure. Vous vous souvenez que dans la remarque additionnelle au fameux texte « Qu'est-ce que la théorie de la relativité ?» paru le 28 novembre 19 dans le London Times, Einstein écrit ceci. « Quelques-unes des affirmations de votre journal concernant ma vie et ma personne doivent leur origine à la vive imagination de l'auteur. Voici encore une autre application du principe de relativité qui ne sera pas pour déplaire au lecteur. Aujourd'hui, on me qualifie en Allemagne de savant allemand et en Angleterre de juif suisse. Si le destin voulait que je sois un jour signalé comme, en français dans le texte, une bête noire, il faudrait au contraire que je devienne un juif suisse pour les Allemands et un savant allemand pour les Anglais. Je vous remercie.